aujourd'hui, il y a un constat qui est clair. On meurt mal en France. Et le deuxième constat, c'est que la question de la fin de vie, en fait, elle n'intéresse pas vraiment.
Jean-Luc Romero-Michel, président d'honneur de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité.
On voit tous les moyens qu'on peut mettre sur le début de la vie, et tant mieux, et il faut continuer. Et on a l'impression que quand on va mourir, ou quand on est en fin de vie, on n'est plus une citoyenne ou on n'est plus un citoyen. Aujourd'hui, c'est plus les gens qui sont autour du lit qui décident que la personne qui est en fin de vie. Si en France, j'avais la possibilité de décider ce qu'on fait, ce serait clair. Moi, je pense que vous savez, le modèle belge, tout est perfectible, bien sûr, mais c'est sûrement celui qui est le plus abouti. Quand les Belges ont voté une loi, c'était trois lois qu'ils ont votées. Ils ont voté une loi sur les soins palliatifs, ils ont voté une loi sur les droits des patients et une loi sur la légalisation de l'euthanasie. Je crois que quelque part, c'est la même chose qu'il faut faire. C'est-à-dire, d'un côté, permettre l'accès universel aux soins palliatifs. Aujourd'hui, à peine à 20-25% des personnes peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. C'est pas normal. C'est à peine un tiers des gens qui en ont besoin qui vont avoir au moins un acte de soins palliatifs. Et on a vu avec la Covid à quel point tout cela a été totalement défaillant. Dans le même temps, les soins palliatifs ne résolvent pas toutes les situations. Et il faut permettre à des personnes qui ont des souffrances insupportables, eh bien leur donner cette possibilité soit d'avoir un suicide assisté, soit d'avoir une euthanasie, bien sûr dans des conditions tout à fait encadrées, comme ça se passe dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, et où, je le rappelle, personne ne veut revenir en arrière sur ces lois. Et puis surtout, on ne connaît pas de Belges, on ne connaît pas de Hollandais, maintenant d'Espagnols, qui fuient en France pour mourir. C'est nous, en France, qui fuyons à l'étranger pour pouvoir mourir comme nous le souhaitons.
En Belgique, nous avons eu la chance, entre guillemets, d'avoir un jour, comme on dit, un alignement des planètes qui ont fait que la majorité qui a été élue au terme des élections est une majorité, comme on dit, laïque. Et donc nous avons donc une majorité élue et gouvernementale qui a laissé libre initiative au Parlement pour réfléchir et rédiger une proposition de loi sur la fin de vie. Et donc, il y a eu deux propositions de loi qui ont été faites en même temps, à la fois sur les soins palliatifs pour les promouvoir et sur l'euthanasie pour la rendre possible. Parce que les deux choses ne sont pas du tout contradictoires. Pour moi, c'est parfaitement complémentaire. Une euthanasie bien conduite est un soin palliatif réussi. C'est tout à fait clair. On respecte la volonté du malade dans son parcours, dans son histoire. On considère la personne comme étant un interlocuteur valable, qui a un vrai parcours, des vraies références personnelles, et le médecin accepte de recevoir non pas quelqu'un qui a une maladie, mais une vraie personne en face de lui, qui a un parcours de santé et qui décide un jour d'y mettre un terme.
François Dama, ancien chef du service des soins intensifs de l'hôpital La Citadelle à Liège, et membre de la commission euthanasie belge.
Je pense que le modèle belge est un modèle qu'on peut suivre. La loi belge a été calquée sur la loi hollandaise, et donc on s'est basé sur cette expérience hollandaise pour faire une loi qui est très similaire à la leur, et effectivement, ça donne un saut de qualité, je trouve, dans la prise en charge des fins de vie difficiles par rapport à ce que permet la loi en France. La loi en France a néanmoins progressé, ça c'est sûr. Il faut bien se rendre compte que la loi en France a progressé depuis la loi Kouchner en 2002, puis la première loi Lionetti, première version et puis seconde version, la loi de Claeys-Lionetti qui prévoit en particulier la possibilité de faire une sédation profonde et continue jusqu'au décès dans les cas justement difficiles et réfractaires. C'est un vrai progrès, ça. Le problème, c'est qu'elle laisse insuffisamment la décision aux malades. La loi en France est toujours basée sur la décision médicale. Une décision qui est basée sur une certaine déontologie que le médecin a lui-même dans sa tête ou suite à des recommandations de sociétés savantes. Et donc, il ne peut pas suivre son patient comme celui-ci voudrait bien qu'il le fasse régulièrement. Et la loi en Belgique permet justement au choix du malade d'être prépondérant dans la décision médicale. C'est ça la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la loi en France ne libère pas du tout la parole du malade, ne libère pas du tout le geste du médecin. Les praticiens français restent extrêmement hésitants et peureux, je dirais même peureux. Ils ont peur d'appliquer la loi parce qu'ils ont évidemment la crainte d'avoir des plaintes ou des poursuites judiciaires.
Alors, il faut être honnête, ça peut être utile, hein, il ne faut pas être caricatural, mais on voit très bien que la sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'on vous endort, on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater, et on attend que vos reins soient atteints, c'est-à-dire qu'en gros, on provoque une maladie pour que vous puissiez mourir. C'est une solution si vous êtes très très vieux, très malade et que votre corps est totalement épuisé. Par contre, ça devient une espèce de torture dès que ça dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et en France, certaines sédations durent 3 semaines. 3 semaines. On nous dit les gens ne souffrent pas. Mais il n'y a aucune étude qui montre ça, qui a démontré ça. Sauf que qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui ont plein de problèmes cliniques. Qui maigrissent parce qu'évidemment ils meurent de faim et de soif quand même, qui sont dans des conditions atroces. Et puis il y a des gens qui souffrent aussi, c'est ceux qui sont en face et qui voient leurs proches décliner à ce point-là. Pourquoi a-t-on besoin de ce qu'appelait M. Leonetti le temps de dormir avant de mourir ? Ok, si on le souhaite, pourquoi pas, mais si on ne le souhaite pas, pourquoi imposer ça et à la personne qui demande à partir et puis à ses proches, d'autant qu'on est quand même dans une grande hypocrisie, parce qu'aujourd'hui, quand on a une sédation profonde et continue, quand on a commencé, on ne doit plus l'arrêter. Donc en fait, quand, quand on vous a endormi, qu'on a même fait des gestes actifs, enlever genre des sondes gastriques, quelle est la différence réelle ? Même si certains disent « Ah, c'est pas la même chose, on ne fait pas mourir les gens ». Ben si, ils font mourir les gens. Sauf qu'on ne sait pas à quelle heure ils vont mourir. Chacun sait qu'aujourd'hui, les lois Leonetti, parce qu'en fait, il y en a eu 3, on oublie, hein, 2005, 2010 et 2016, elles ne sont plus adaptées. Il faut qu'enfin, on change de logique et qu'on fasse une loi qui permette, de respecter la volonté du patient, qu'on permette l'accès universel aux soins palliatifs et qu'on permette l'accès à l'euthanasie, au suicide assisté.
La loi en France, c'est une loi qui a tenté d'améliorer les choses en rendant possible et en attestant la possibilité de prendre des décisions aussi graves que d'arrêter l'alimentation et l'hydratation chez un patient végétatif. C'est un progrès, je dis, mais c'est aussi une loi qui avait l'intention, évidemment, de rendre inutiles les demandes d'euthanasie. Les promoteurs de la loi pensaient qu'une fois qu'on aurait fait cette loi, les euthanasies ne seraient plus du tout indiquées, on pourrait se passer. Donc cette loi avait deux buts, d'améliorer la situation et aussi d'écarter ce spectre d'euthanasie. Or malheureusement non, cette loi a amélioré des choses bien sûr, insuffisamment, parce que dans les faits elle est mal appliquée, insuffisamment appliquée, et d'autre part surtout, la loi ne permet pas aux malades de pouvoir prendre une décision importante pour ce qui le concerne. Et c'est ça qui est l'étape supplémentaire que la loi va devoir franchir pour enfin donner, sous condition bien sûr, hein, le dernier mot aux malades. L'euthanasie en Belgique n'accuse pas de dérive parce qu'on est sous le contrôle d'autrui constamment. C'est une procédure transparente et concertée. Contrairement à certaines situations où on peut déguiser des actions médicales qui sont abusives, je dis bien le mot, qui sont parfois anormales et qui se cachent sous le terme sédation de fin de vie, sédation profonde et continue jusqu'au décès. La loi belge n'est pas mal faite, je trouve, parce que c'est pas, comme certains l'ont dit, c'est pas un droit créance, hein, c'est le droit de demander une euthanasie. Et ce qui est extraordinaire dans cette possibilité de demander l'euthanasie, c'est que cette demande doit être confrontée à un professionnel. Effectivement, la loi sur l'euthanasie en fait un problème médical. Il faut que ce soit un malade, qui soit dans des conditions de maladie grave et incurable et de souffrance constante, inapaisable, insupportable, physique ou psychique. Et donc, ce n'est pas la personne qui estimerait un jour que sa vie est aboutie, qu'elle a fait son temps et que le moment est venu d'arrêter. La personne qui peut demander une euthanasie selon les critères belges, doit être en position de malade et de souffrir de maladie. Et donc, ça permet à un professionnel de se confronter avec une demande, de pouvoir éventuellement modifier le point de vue du malade, lui montrer qu'il ne pense pas juste, qu'il y a d'autres possibilités qui existent, que d'autres choix peuvent être faits. Et on a des personnes qui renoncent à une euthanasie, ça arrive tous les jours. Et donc, j'insiste bel et bien, en disant que la loi en Belgique permet au point de vue du malade de s'imposer et d'avoir le dernier mot, comme on dit, ce n'est pas néanmoins un droit du malade d'exiger une euthanasie. Il faut que le médecin puisse adhérer à sa demande. Et donc, je trouve ça extraordinaire, le fait qu'une personne en détresse puisse rencontrer un professionnel avec qui il va y avoir un échange, un dialogue, parfois une vraie confrontation, mais souvent une alliance. et qui permet de convenir ensemble que l'euthanasie est bel et bien la dernière solution raisonnable à faire.
L'aide active à mourir, c'est pour pouvoir rassembler dans un même mot à la fois l'euthanasie, à la fois le suicide assisté. Nous, on revendique les deux. Si vous êtes dans la situation, on l'a oublié, par exemple, d'un Vincent Humbert, ce jeune qui a très longtemps demandé à mourir, son corps était devenu une vraie prison, il pouvait juste communiquer avec un doigt et il aurait été incapable et à la fois de tourner pour ouvrir une perfusion ou d'avaler un produit. Il faut à ce moment-là que quelqu'un intervienne. Et puis, il faut la possibilité d'un suicide assisté pour celles et ceux qui veulent pouvoir prendre eux-mêmes le produit, l'avaler ou tout simplement ouvrir la perfusion. Et la France s'honorerait à avoir ces deux possibilités.
Alors, le mot suicide et le mot euthanasie sont deux mots malheureux parce que le mot suicide fait référence à une pathologie contre laquelle il faut lutter. Et le médecin travaille dans l'intérêt de son malade. Le mot suicide, donc, n'est pas le bon mot. Mais vous entendrez ici et là que la loi en Belgique a permis l'euthanasie et pas de suicide assisté. C'est une erreur de lecture, hein, complètement. Le premier cas qui a été déclaré à la commission de contrôle euthanasie est un cas qui a été réalisé par l'auto-administration d'une solution létale par voie orale. C'est le modus operandi de la Suisse. Et alors, certains membres de la commission ont dit « mais ce n'est pas l'euthanasie, c'est de la suicide assisté ». On leur a fait remarquer mais que la loi n'a pas donné justement la manière de faire. On pouvait administrer une dose létale d'un médicament, mais on n'a jamais dit qu'il fallait le mettre par voie intraveineuse et que la seringue devait être actionnée par le médecin. Ça peut être mis par voie intraveineuse, la seringue peut très bien être actionnée par le malade. Et on peut très bien administrer une dose létale aussi par voie orale, ou par voie inhalatoire, ou par voie transcutanée, on peut toujours imaginer, hein. Ou par voie intrarectale. Il y a 36 méthodes pour administrer. La plus facile, évidemment, c'est intraveineuse, mais la voie orale est tout à fait possible. Et donc, quand on fait la différence entre la Suisse et la Belgique, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'en Suisse, on parle de suicide et pas d'euthanasie? C'est parce que dans ces pays-là, en Suisse comme aux États-Unis, le suicide assisté est rendu possible à condition que ce soit le malade qui l'auto-administre. Il est interdit aux médecins d'administrer eux-mêmes cette potion létale ou cette solution létale intraveineuse. Alors je résume la différence entre la Belgique et la Suisse, simplement, qu'est-ce qui se passe? Vous devez quand même avoir en Suisse une prescription médicale. Vous devez quand même passer devant un médecin qui prescrit cette solution. Et vous devez donc quand même obéir à des critères médicaux qui sont tout à fait similaires à ceux de la loi en Belgique. Et donc, quelle est la différence? En Suisse, l'administration de potions létales doit être faite par le malade, toujours, et le médecin peut être présent. En Belgique, le médecin doit être présent. Et il peut injecter ou administrer la potion létale ou la solution létale. Voilà la différence. Résumé en une seule phrase.
Contrairement à ce qu'on pense, la plupart des gens sont conscients jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment où ils vont sombrer, ils sont en capacité de dire « je veux partir ou je veux pas partir ». Alors ceux qui ne peuvent pas, qu'est-ce qu'il y a à faire? À la fois écrire des directives anticipées et choisir une personne de confiance. Des personnes qui vont pouvoir parler à votre place. Et pour ceux qui n'ont pas fait de choses, si vous êtes inconscient, vous n'avez pas de directive anticipée, qui doit choisir? En premier, forcément, le mari, la femme, le conjoint, s'il y en a. S'il n'y en a pas, ça doit être les enfants adultes. S'il n'y a pas d'enfants adultes, les parents et tout ça en cascade. Ça, c'est prévu dans la loi belge. En France, on ne l'a pas prévu. On a vu ce que ça a fait avec l'affaire Vincent Lambert qui a duré 10 ans et où il a fallu 10 ans pour qu'on donne raison enfin à son épouse et qu'on le libère. Donc ça, il faut le permettre. Nous, on n'a rien à inventer. Tout existe ailleurs. Il suffit simplement de copier les législations qui fonctionnent depuis si longtemps et les choses se feront très simplement, tout en n'oubliant pas que très majoritairement, on peut décider quasiment jusque la fin.
La loi en Belgique est très explicite, c'est le malade qui décide jusqu'au bout. C'est lui qui doit être compétent, l'a dit la loi, le malade doit être compétent, être capable de faire une demande formulée de manière consciente, lucide, volontaire, sans pression extérieure. Cette possibilité doit être gardée jusqu'à la fin. Il ne peut pas, malheureusement, perdre la capacité de faire cette demande au moment où la situation devient trop dégradée. L'exemple malheureux, c'est évidemment toutes les maladies neurodégénératives. Il faut on ne pouvait pas faire des déclarations anticipées ou désigner quelqu'un, un mandataire de santé, comme on dit en Belgique, ou une personne de confiance, comme on dit en France, qui viendrait dire au docteur, voyez-vous, la personne, selon les directives anticipées, ne voulait pas vivre sans reconnaître sa famille, sans être capable de ceci, de cela, et donc elle voulait être euthanasiée. Eh bien non, ce n'est plus possible. La personne n'est plus capable de faire cette demande, alors l'euthanasie est perdue pour elle. La loi a néanmoins quand même prévu qu'on puisse avoir une euthanasie sur base d'une déclaration anticipée, mais le champ d'application de cette déclaration anticipée est extrêmement étroit. Actuellement, la loi prévoit qu'une personne peut être euthanasiée sur base d'une déclaration anticipée à condition qu'elle soit inconsciente et dans une situation irréversible. Inconsciente. Sur le plan clinique, inconscient, c'est en réalité état végétatif ou coma.